ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Clara Buisson. Merci Clara d'être venue nous parler de votre travail. Vous êtes coordinatrice régionale de dispositifs d'insertion, apprentie d'Auteuil en fait. C'est l'institution dans laquelle vous travaillez et vous allez nous parler un petit peu du Père Brottier pour ceux qui le connaissent ou qui connaissent les spiritains puisque ça va au-delà de la France. Bonsoir.
Bonsoir Benoît. Merci,
vous êtes né dans une famille à Toulouse ?
Non, je suis née en Bretagne. On peut dire que mon parcours a été national puisque je suis née en Bretagne, j'ai vécu à Paris, à Nancy, à Poitiers, à Limoges, à Paris, voilà, à Marseille.
Ma foi, j'y crois, des déplacements liés aux aléas de la vie, à votre parcours professionnel également, mais dans votre famille, une famille tournée vers la spiritualité, vers la religion.
On peut dire ça du côté de mon père surtout, voilà, qui a été à l'âge de 17 ans au séminaire, se vouant à une vocation religieuse, et puis qui en est parti, mais qui a continué son chemin spirituel et religieux, et qui a été catholique, qui est maintenant protestant, et une grand-mère aussi qui était très, très pieuse, qui m'amenait à l'église. Donc voilà, on peut dire effectivement que j'ai été...
Une éducation religieuse avec le catéchisme et puis toute une culture qui, à un moment donné, peut-être vous a posé des questions.
Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai eu une éducation, pour ma part, religieuse, parce que j'étais baignée dans cet environnement-là. Pour autant, avec des parents qui nous ont laissé le choix. Et voilà, on n'a pas eu les clés pour comprendre, pour aller vers cette religion catholique ou une autre religion. En tout cas, c'est pas mon cas.
C'est pas un conditionnement. Non. C'est plutôt une ouverture, un éveil à certaines valeurs, à certains principes, solidarité.
C'est ça. Effectivement, j'ai une mère qui travaille dans le secteur social depuis toujours, qui a été enseignante, puis éducatrice spécialisée, puis responsable de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui a été avec des jeunes aussi. Voilà, dans mon parcours, c'est loin d'être neutre, puisque l'accompagnement des jeunes, elle le faisait au quotidien, que le mercredi après-midi, je me souviens être avec eux, et les week-ends parfois, donc des jeunes qui étaient aussi en difficulté, enfin qui étaient en difficulté comme ceux qui sont accompagnés par apprentis d'Auteuil. Et donc, effectivement, des valeurs d'humanité, d'accompagnement voilà, des plus précaires, des plus en difficulté, des plus pauvres.
Des adolescents en souffrance. Depuis la crèche jusqu'à la formation d'un CAP pour leur permettre d'avoir un travail et de ne pas être chômeurs comme parfois leurs parents, ou souvent leurs parents le sont. Ou bien avec des familles qui sont éclatées ou recomposées, et où il y a un désir de paix, un désir de calme, et parfois même des jeunes qui sont pas placés. Vous me disiez, c'est pas votre rôle.
Ainsi placés par l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on a appelé communément la DAS, mais qui n'existe plus. Donc, effectivement, le conseil départemental peut être amené à placer les enfants pour les protéger, parce qu'en danger dans leur famille, pour des questions de conditions de vie qui peuvent être très précaires, ou de la violence dans la famille. Donc, voilà, des jeunes qui ne peuvent pas vivre en famille, qui viennent à 24 heures, enfin, en tout cas, ils dorment et ils sont hébergés chez nous. Le week-end aussi, ils peuvent rester dans ces foyers, accompagnés d'éducateurs, en maison d'enfants à caractère social plus précisément.
De ne pas être laissés à eux-mêmes. De la même manière, les décrocheurs sont suivis pour que leur scolarité puisse retrouver un minimum de compétences. Alors, au départ, c'est Daniel Brottier, entre autres. C'est une institution désormais nationale et même internationale. Père Brottier, c'est un spiritain, ouais. Au tournant du siècle.
Alors au départ, c'est même l'abbé Roussel en 1866, donc vous voyez qu'on est une fondation qui existe depuis longtemps. Et le père Brottier a repris en 1923 la direction des orphelins apprentis d'Auteuil, puisqu'on s'appelait orphelins apprentis d'Auteuil parce qu'on accueillait ces orphelins après-guerre, donc des enfants qui étaient dans la rue et qu'on accueillait, qu'on hébergeait, qu'on nourrissait et pour lesquels on a très vite, le père Brottier et l'abbé Roussel en son temps, proposé des formations. Donc ils faisaient de la boulangerie, de la menuiserie, de la cordonnerie, des métiers manuels, voilà, pour effectivement leur redonner confiance, les remettre debout.
Et Daniel Brottier a été particulièrement actif pendant la guerre. On disait qu'il allait vraiment dans les tranchées prendre le plus grand risque pour sauver des blessés. Et c'est là peut-être où il faut parler pour certains de la prière de Thérèse de Lisieux. Thérèse, peut-être serait-il mort. En tout cas, c'est ce que disent les chrétiens convaincus, les catholiques, la force de la prière.
Le père Brottier était effectivement missionnaire, aumônier plutôt volontaire dans les tranchées. Et il était décrit comme aumônier verni par les soldats. Parce qu'effectivement, protégé, il avait été mis sous la protection de Sainte Thérèse de Lisieux par un de ses amis.
C'est dans la foi qu'on dit ça. Les autres disent téméraire et un petit peu kamikaze, mais il avait toujours une santé très précaire.
Effectivement, il a été même rapatrié à un moment donné de sa vie, puisqu'il était très, très malade. Il est mort relativement jeune. Parce qu'effectivement, le père Brottier s'est consacré 12 ans en fait à la fondation d'Auteuil, hein, avant de mourir justement. Et il a érigé, vous parliez de Sainte Thérèse de Lisieux tout à l'heure, érigé une église, au sein de ce qui est le siège aujourd'hui d'apprentis d'Auteuil.
Vous avez dit tout à l'heure rapatrié, c'est-à-dire qu'il était allé à Dakar et à Saint-Louis au temps du colonialisme. Et les amis sénégalais savent que la cathédrale de Saint-Louis et la cathédrale de Dakar ont été financées en partie quand il est revenu, encore pour des raisons de santé. Donc il a bien été rapatrié aussi du Sénégal à son grand désespoir. Et en même temps, il a beaucoup fait pour trouver des fonds pour que ces cathédrales soient... Alors, c'est quoi? C'est 5 ou 8% de catholiques pour 95% de musulmans. Il faudrait dire qu'on ne sait pas ceux qui sont animistes, mais ça, nous rentrons dans un autre débat. Les apprentis d'Auteuil, c'est de prendre les orphelins, puisque c'était après la guerre de 14. Il a fait beaucoup aussi, Daniel Brottier, pour accompagner les soldats blessés. Et il avait la chance ou il avait cet art de faire de la photo.
Vous parliez, juste pour revenir sur Dakar, parce que effectivement il a érigé cette cathédrale, enfin, il a surtout cherché des fonds pour l'ériger, et c'est ce qu'il a renouvelé pour Sainte Thérèse de Lisieux, puisqu'il est en 2 ans il a trouvé des fonds pour construire cette église, donc qui est 40 rue La Fontaine à Paris. Et il l'a fait aussi pour les orphelins à l'époque, puisqu'il a su monter un cinéma qui était ouvert dans le quartier, donc pour avoir des fonds, qui s'appelait Auteuil Bon Cinéma. Il a mis de la publicité sur les portes des églises, il a mis de la publicité dans le métro avec la photo de Sainte Thérèse de Lisieux. Enfin, il était vraiment précurseur de la publicité, si on peut dire, pour faire connaître l'œuvre d'apprenti d'Auteuil. Et collecter des fonds. Donc c'était vraiment une très grande force, effectivement, du père Brottier.
Mais puisque vous parlez de publicité et que nous sommes à cette période de Noël, certains peut-être vont recevoir dans leur boîte aux lettres la lettre du directeur général des apprentis d'Auteuil, Nicolas Truel. Et vous me disiez que c'est 42% du fonctionnement de cette institution nationale ou internationale qui peut vivre grâce à la publicité.
Ouais,
me suis bien exprimé, il faudrait tourner la phrase autrement. Mais...
Effectivement, 43% du budget d'apprentis d'Auteuil dépend des donateurs, donc qui sont des particuliers comme vous et moi, des entreprises, des philanthropes. Donc c'est effectivement des particuliers, mais aussi bien du secteur de l'entreprise, qui soutiennent des projets et qui permettent à Apprenti d'Auteuil d'avoir des éducateurs, de payer des éducateurs dans des internats, dans le cadre d'un établissement scolaire, par exemple, ou de développer des projets culturels, artistiques, puisqu'on a des fondations qui vont financer ces projets de théâtre, de dessin, de BD, voilà. Donc il y a effectivement ces dons-là nous permettent d'aller au-delà du simple hébergement des jeunes et de les accompagner sur le pan culturel, artistique, ouverture au monde.
Vous aviez apporté d'ailleurs un poème parce qu'ils font du théâtre et j'aime beaucoup, si vous dites le rêve de l'enfant c'est la paix. Et la deuxième strophe, peut-être vous pouvez la lire, je la commence. Lorsque les prisons sont réaménagées en bibliothèque.
Lorsqu'un chant s'élève de seuil en seuil la nuit, à l'heure où la lune printanière sort du nuage, comme l'ouvrier rasé de frais sort de chez le coiffeur du quartier, le samedi soir, c'est la paix.
C'est la paix. C'est la paix sur les rails de mes vers, le train qui s'en va vers l'avenir, chargé de blé et de roses.
C'est la paix.
C'est la paix. Et vous avez apporté un chant pour montrer que, ben oui, ces jeunes ne sont peut-être pas comme les autres, mais ils sont particuliers et ils méritent de vivre dans la paix.
Et la confiance.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il serait mort du genre d'honneur auquel honneur. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. Il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, Clara Buisson, vous êtes coordinatrice régionale de dispositifs d'insertion aux apprentis d'Auteuil. Alors, et jouer du piano debout, bon, les apprentis d'Auteuil, c'est réagir face au décrochage scolaire, c'est aussi accompagner les parents et réaffirmer leur rôle éducatif, et puis ouvrir aux jeunes les portes de l'avenir. Que ces jeunes qui font de la musique, qui font du théâtre, ils aient confiance en eux.
Effectivement, depuis la fondation
Le Père Brottier, oui.
Du Père Brottier, effectivement, lui, il avait un regard très bienveillant, audacieux et de confiance vers ces jeunes. Et ça s'est resté très ancré à Apprenti d'Auteuil. Et c'est pour ça que cette musique m'inspire, c'est qu'on a un regard différent sur les jeunes pour les porter effectivement et leur redonner confiance à eux et aussi à leur famille, puisque on parle d'accompagnement à la parentalité, puisque c'est un tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec le jeune sans sa famille, et donc on accompagne également les parents, que ce soit dans nos établissements scolaires, mais on a aussi des dispositifs, des lieux où on accompagne spécifiquement les parents sur leur rôle de parents.
Et vous-même, vous avez travaillé 3 ans dans la PJJ, c'est-à-dire la protection
judiciaire de la jeunesse.
Et accompagner des enfants ou des ados qui ont fait des bêtises, en tout cas à qui on propose, plutôt que d'aller en prison, faire des services SIP,
des services d'intérêt généraux,
les SIG. Et tout à l'heure, nous avons cité, quand la prison devient une bibliothèque, c'est davantage de chances qui sont données aux jeunes plutôt que de retourner la haine contre eux-mêmes ou contre les autres, leur frustration. Mmh. Ouais. À Saint-Louis, dans une institution scolaire, le jeune n'est pas un vase que l'on remplit, il est un feu que l'on allume. C'est toute la tâche. Mais vous-même, vous ne travaillez pas directement auprès des jeunes, puisque vous êtes la coordinatrice de tout le travail administratif qu'il faut faire. Vous avez fait de la comptabilité, de la gestion.
Oui, alors disons que...
Il y a très longtemps.
Mon rôle, il est plus de créer des partenariats pour ces dispositifs d'insertion. D'aller chercher une association, par exemple, qui va leur parler de qu'est-ce que c'est que d'avoir un compte bancaire, comment on gère son budget. Ça peut être d'aller chercher un bénévole qui va les accompagner sur la création d'une micro-entreprise. Donc voilà, de créer vraiment le partenariat pour que ces dispositifs d'insertion accompagnent des jeunes. Ils accompagnent des jeunes de 16 à 29 ans pour les remobiliser, pour les accompagner vers l'apprentissage, notamment. Donc voilà, je suis plus dans un rôle de mise en commun aussi, puisqu'il y a plusieurs dispositifs. Il y en a un au Mirail notamment, mais aussi à Labège et à côté de Montauban. Donc aussi de créer une dynamique entre établissements et de partage de pratiques. Voilà, comme on le fait pour les programmes des enfants des rues dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est important que les professionnels puissent sortir de leur dispositif, leur établissement, pour voir ce qui se fait ailleurs.
Et puis en même temps, les jeunes, ils vont quitter, ils vont être autonomes. Mais en même temps, il y a une relation qui sera maintenue tout au long de la vie. Ils savent qu'en cas de pépin, de difficulté, ils peuvent revenir. Ils ont pris des contacts personnels. Mmh. Ça ne remplace jamais les parents, surtout lorsque les parents ne sont pas toujours là. Mais maintenir la relation, c'est très important.
C'est effectivement l'article premier de nos statuts. C'est bien d'accompagner les jeunes. Une fois sortis aussi d'apprenti d'Auteuil, ils savent qu'ils peuvent toujours venir taper à notre porte. Et c'est primordial, c'est effectivement, comme vous disiez, le lien qui a été créé et qui rassure, sur lequel on peut compter à n'importe quel moment de sa vie si on a un coup dur. Donc effectivement, c'est très important aussi de ces anciens, alors on les appelle les anciens chez nous, mais qui puissent porter un exemple aussi pour d'autres. Voilà, donc en fonction des jeunes, parfois... Ils n'ont pas envie de revenir tout de suite, ça peut être une période difficile aussi pour eux, mais il y a toujours un lien, quelle que soit la personne que je rencontre, dans tous les jours en fait, il y a un lien avec Apprenti d'Auteuil.
La confiance. Alors au départ c'est une institution confessionnelle, nous sommes dans une société séculière, laïque, c'est les statuts.
Effectivement, c'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique, puisque le père Brottier nous l'a fait reconnaître d'utilité publique en 1929. Et une fondation catholique, voilà, religion qui se vit dans les établissements scolaires, puisqu'on accompagne à la spiritualité les jeunes. Donc s'ils ont envie de faire un chemin même vers le baptême, c'est possible. Voilà, il y a vraiment une sensibilisation. Et dans nos établissements, plutôt dans le droit commun, c'est-à-dire des crèches, des établissements qui sont pas confessionnels, on a effectivement moins cette notion d'accompagnement à la spiritualité.
avec aussi, pour ceux qui le souhaitent, des liens avec le secours catholique, que ce soit avec les familles ou que ce soit avec les jeunes. Mmh. Mais quand on cherche un travail, on n'a pas à sortir son chapelet. Mmh. Et c'est toute la question des convictions personnelles qui reste en fait relativement... s'il n'y a pas de prosélytisme, qui reste relativement discrète.
C'est ouvert, c'est-à-dire, voilà, ils prennent ce qui leur semble bon de prendre vers un chemin, que ce soit spirituel, religieux. Et vous parliez du secours catholique. Effectivement, on travaille dans le cadre d'une maison des familles qui est au Faubourg Bonnefoy, au 189 Faubourg Bonnefoy, dans une maison des familles qui accueille de façon anonyme et ouverte des familles qui viennent échanger sur les questions qui les concernent au quotidien, sur la question d'éducation. Et qui peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Voilà, vous parliez de lien tout à l'heure, et donc c'est au cœur de notre projet, de créer la relation et le lien. Et donc c'est effectivement avec le Secours catholique, avec ATD Carmonde également, et Cité Caritas, qu'on a monté ce projet, donc ouvert sur l'extérieur.
Et sur l'international. Alors 60% de garçons, 40% de filles, vous avez des statistiques sans vouloir rentrer ou faire rentrer des jeunes qui ne sont pas des boîtes de conserve qu'on pourrait classer sur des étagères, mais des migrants qui ont plus de difficultés et qui sont soutenus, et toute une réflexion qu'on pourrait appeler d'ordre socio-démographique, en deux mots.
Alors, je peux vous donner un chiffre au niveau des enfants qui vivent à la rue dans le monde. 120 millions d'enfants à la rue. Donc, nous accueillons, nous, des mineurs non accompagnés, des jeunes qui ont migré sans famille et donc qui potentiellement peuvent se retrouver à la rue, donc qu'on accueille dans des foyers, dans des maisons d'enfants pour... les accompagner sur les parties administratives, leur donner des papiers, et puis également les accompagner vers un projet de formation ou d'insertion professionnelle.
Et ce n'est pas le centre de rétention administrative d'Accornebarieux dont nous avons parlé ici plusieurs fois, parce que c'est sûr que tout le problème administratif des papiers, c'est assez compliqué en France actuellement. Et puis aussi, il y a toute une série de réseaux. La crise sanitaire actuellement impacte le suivi de ces jeunes qui sont peut-être plus repliés sur eux-mêmes. Mmh. Vous me parliez de ces difficultés d'ordre psychologique quand il faut accompagner et qu'on est en rétention, où c'est plus difficile, alors on n'a pas toujours le téléphone. Donc c'est à ces périodes-là de Noël.
Alors bien heureusement, sur ce deuxième confinement, on l'a vécu... de façon moins difficile, parce que les établissements scolaires sont restés ouverts, les centres de formation également. Et donc, on a pu mixer, si on peut dire, de l'accueil en présence et également du distanciel, donc via un écran. Mais en tout cas, on voit bien l'importance de voir régulièrement ces jeunes, physiquement, pour éviter les décrochages scolaires. Donc, c'est un moindre mal là, sur le deuxième confinement.
Il sera prévu des petites fêtes pour la fin de l'année, pour Noël. C'est pas facile avec les règlements.
Alors aussi, bien heureusement, dans nos établissements scolaires, ils sont au quotidien ensemble. Donc on va pouvoir fêter Noël et on en est bien heureux au niveau des établissements. Et puis effectivement, bien en respectant les conditions sanitaires. Mais oui, c'est très important à Apprenti d'Auteuil de célébrer donc, et les réussites des jeunes, puisqu'il y a les soirées de la réussite chaque année pour valoriser ce qui a pu être fait pendant l'année. Et puis également de fêter des moments importants, Pâques, Noël.
Et chacun peut aller sur le site que vous nous rappelez.
Effectivement, on est très soutenus par les donateurs, les entreprises, comme je vous le disais. Donc... on a un site qui est Apprenti d'Auteuil Sud-Ouest, donc si vous souhaitez contribuer et nous aider à développer nos actions, vous êtes les bienvenus et on vous en remercie.
C'est tout ce qui se fait comme solidarité. C'est pour ça que vous avez choisi aussi un appel, de nouveau ce poème. Mes frères, au sein de la paix, le monde entier, avec tous ses rêves, respire à plein poumon.
Joignez vos mains, mes frères, c'est cela la paix.
C'est ce que nous nous souhaitons en cette fête de Noël et en ce début d'année. Merci, Clara, et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.
Merci Christophe.